Donc nous avons été apparemment plusieurs à changer de pays pour nos vacances. Et comme je vous l'ai dit, Avril et moi, nous étions en Allemagne, juste en face de Strasbourg. C'est fou la différence que quelques kilomètres peuvent faire. Vous traversez une frontière et vous changez de langue, de coutume, d'alimentation. Et vous ne savez plus quelles sont les limitations de vitesse sur les routes. Vous changez de régime, vous changez de loi. Et en fait, c'est la même chose lorsque l'on devient chrétien. Beaucoup de choses changent. Et l'apôtre Paul compare cela à un changement de loi. Il y a 2 semaines, nous avons essayé de mieux comprendre un verset célèbre dans l'Épître aux Romains, Romains 5, 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous avons dit que, dans le langage de la Bible, être justifié, c'est être inscrit par Dieu dans le camp des justes. Non pas parce que nous le mériterions, mais parce que Christ a porté nos péchés sur la croix. Et l'un de ces chants, devant le trône du Très-Haut, évoque d'une façon très belle le fait que Christ est mort pour nous et que Dieu nous inscrit dans le camp des justes. Ce cantique évoque également Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi n'y a-t-il plus aucune condamnation ? Parce qu'on a changé de pays, on a changé de loi. Et j'espère que vous allez le comprendre lorsque nous ferons la lecture de Romains, chapitre 8, à partir du premier verset. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils, avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous, qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en lui, Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à vous-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez, car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre Esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Je vais sauter un petit peu pour faire plus court et reprendre au verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. J'ai lu ce passage parce que j'ai voulu mettre en évidence ce changement de pays de la loi et de la mort et du péché à la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Et ce sont là tous des versets qui parlent de ce qu'est la vie de l'Esprit que nous pouvons mener si nous sommes de vrais chrétiens. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions régis par la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire par les 10 commandements, par la loi de Moïse, par les lois de Dieu qui nous disaient comment vivre, mais qui ne nous sauvaient pas de nos péchés. Ces lois pointaient le péché, mais pour le condamner, pour nous condamner. Et Paul appelle ça la loi du péché et de la mort. Et si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes sous une autre loi que Paul appelle la loi de l'Esprit qui donne la vie. Alors c'est l'une ou l'autre, l'une de ces lois ou l'autre. Et nous changeons de pays si nous sommes chrétiens de cœur réellement et pas seulement chrétiens de tradition. La loi de l'Esprit qui donne la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce différent d'une bonne vie morale et religieuse comme celle que nos parents ont voulu nous inculquer? Alors nous comprendrons en quoi c'est différent en regardant de plus près dans notre texte ce que l'Esprit a fait en nous, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il va faire. Ce que l'Esprit a fait, eh bien, c'est dans ces premiers versets, c'est court et c'est simple. Le verset 2 dit « Il t'a donné la vie dans l'union avec Jésus-Christ ». Vous avez d'autres traductions sur les genoux. D'autres traductions disent « Il donne la vie en Jésus-Christ » ou « par Jésus-Christ ». Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui porte le nom de chrétien parce qu'il est né comme cela, parce qu'il a été élevé comme cela, et puis la personne qui a compris qui est Jésus, la personne qui s'est tournée vers Jésus pour être sauvée et pardonnée. L'Esprit l'a fait naître de nouveau, dit la Bible. L'Esprit a fait de cette personne une nouvelle créature, l'a greffée sur l'arbre de Dieu, l'a intégrée dans la famille de Dieu, lui a donné à boire une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que l'Esprit a fait. Certaines personnes vivent cela comme un bouleversement, comme une révolution, comme une explosion. Elles savent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, qu'elles ont changé de monde. Et d'autres personnes ne pourraient pas vous raconter quelque chose d'explosif. C'est surtout le cas de personnes nées dans des familles où on leur a parlé du Seigneur et où, toutes petites, elles ont dit oui à Dieu, sans s'en apercevoir au départ. Elles se sont épanouies dans la vie de l'Esprit. Explosion ou pas, les deux catégories de personnes se sont épanouies dans la vie de l'Esprit. Et les uns et les autres sont au bénéfice de Romains 8, versets 1 et 2. Elles sont libérées de la loi du péché et de la mort. Ces personnes sont unies à Jésus-Christ et elles le montrent maintenant par la vie de tous les jours. Et c'est sur quoi j'aimerais insister davantage. Ce que l'Esprit a fait, il nous a donné la vie en Christ, ce qu'il fait actuellement. J'ai trouvé au moins 4 points dans ce chapitre sur ce qu'il fait maintenant. Et la première chose, c'est qu'il est le moteur de notre vie morale. Il est le moteur de notre vie morale. On peut l'afficher, cette ligne. Ce n'est pas la crainte du jugement qui nous motive à être plus juste, plus aimant, plus honnête. Ce n'est pas le poids terrible de tous les commandements de Dieu. C'est une sorte de poussée intérieure, une envie, une tendance. C'est comme une sorte de sève qui monte dans tous les rameaux de la vigne et fait gonfler les raisins. C'est la vie de l'Esprit en nous. Et la Bible parle bien du fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un fruit, une poussée de l'Esprit. Alors il est possible, en théorie, de résister à cette poussée de l'Esprit quand nous sommes chrétiens. Il est possible d'attrister l'Esprit, de l'éteindre même, dit la Bible. Tout comme je peux passer une semaine en Allemagne et aller faire mes courses à Strasbourg, parler français aux gens, aller au culte en France. Mais si je suis dans un nouveau pays, je veux apprendre la langue du nouveau pays. Tout comme le vrai chrétien a envie d'apprendre la nouvelle langue de l'Esprit. S'il était livré à lui-même, vivant selon la chair, comme disent les vieilles traductions, ce serait alors, je cite Galates 5, l'immoralité des pratiques dégradantes, la langue de la débauche, de l'adoration des idoles et de la magie, la langue des haines, des querelles, de la jalousie, des accès de colère, des rivalités, la langue des dissensions, des divisions, de l'envie, de l'ivrognerie, des orgies et d'autres choses de ce genre. Une longue liste que vous trouverez dans Galates 5 sur les fruits, les œuvres de l'homme livré à lui-même, de l'homme qui vit selon la chair. Voilà ce langage-là, mais le chrétien veut apprendre plutôt le langage de l'amour, de la sainteté et de la justice. Et c'est avec l'Esprit qu'il commence à apprendre cette nouvelle langue. L'Esprit est le moteur de notre moralité. Ce qui m'amène à la deuxième chose que souligne le chapitre, au verset 14, l'Esprit nous conduit. Et je crois que dans le contexte de ce chapitre, cela veut dire que l'Esprit nous conduit dans nos choix entre le bien et le mal. C'est cette sorte de trouble dans votre conscience qui vous dit que vous êtes sur un mauvais chemin. Ou alors c'est l'impulsion que vous ressentez pour faire quelque chose de bien. Notre conscience peut être comme un compteur détraqué. Elle peut pointer le rouge sans aucune raison. Elle peut rester dans le normal alors que votre moteur est en surchauffe et que dans 2 kilomètres, vous serez au bord de la route en train de vous demander où vous avez bien pu mettre le numéro de l'assistance. Mais la plupart du temps, les compteurs, ça sert à quelque chose. Et la conscience, ça sert aussi, surtout lorsque nous l'affinons par la lecture de la parole de Dieu, la Bible. L'Esprit nous conduit dans nos choix entre le bien et le mal. Mais dans le vocabulaire de l'apôtre Paul, ce n'est pas tout. Il dit à un moment donné qu'il est conduit par l'Esprit pour aller à Jérusalem avec une aide matérielle offerte par les églises des Grecs aux églises des Hébreux. Et là, conduit par l'Esprit, ce n'était pas un choix entre le bien et le mal, c'était le choix d'une action à mener pour la gloire de Dieu. Et c'était aussi l'acceptation par avance des difficultés qu'il trouverait sur son chemin. Eh bien, nous aussi, nous pouvons être conduits par l'Esprit de cette façon-là, s'il habite en nous, si nous appartenons à Jésus-Christ. Je m'y attends pour moi-même. L'Église s'y attend. Vous pouvez aussi vous y attendre, être conduit par l'Esprit avec toutes les surprises possibles et imaginables si vous êtes ouvert à Dieu et souple dans sa main. L'Esprit est le moteur de notre moralité. Il nous conduit. Et qu'est-ce qu'il fait encore maintenant? Eh bien, au verset 16, l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est un peu comme avec la conscience, nous pouvons nous tromper ici, nous pouvons nous faire des illusions. Mais normalement, le chrétien à qui l'Esprit a donné la vie le sait. Il sait qu'il appartient à Dieu. Il ne le sent peut-être pas, car ses sentiments sont assez changeants. Quand j'ai un rhume, je ne sens pas la présence de Dieu, je sens que je suis à l'article de la mort. Alors que ma femme, elle sait que ça va passer. Mais quand j'ai un rhume, quand je suis fatigué et découragé, je sais que Dieu est là. Et je sais que Romains 8, 38 et 39 est vrai pour le temps et pour l'éternité. Ça, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces versets magnifiques. J'ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. J'ai l'absolue certitude pour celui qui est en Christ et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Cette certitude est là, l'Esprit dit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors ce témoignage est validé, ce témoignage est confirmé lorsque d'autres témoins vont dans le même sens. Et si vous lisez l'épître de Jean, la première, vous verrez qu'il n'y a pas seulement le témoignage intérieur de l'Esprit qui compte, mais aussi l'amour, l'écoute de l'enseignement des apôtres, la pratique du bien, l'amour des frères et toutes d'autres choses qui confirment qu'effectivement, nous avons changé de pays. Nous ne pouvons pas être sûrs d'appartenir à Dieu si nous vivons dans le péché, si nous ne manifestons pas notre amour pour Dieu, pour les frères, pour la parole de Dieu, pour les humains. À ce moment-là, Dieu seul sait où nous en sommes. Mais si nous vivons dans le pays où règne la loi de l'Esprit de Christ, l'Esprit nous dira que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons à juste titre appeler Dieu notre Père. Père non seulement parce qu'il est le Créateur de tous les hommes, mais Père parce qu'il nous a adoptés. L'Esprit est le moteur de notre moralité. Il nous conduit, il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, la quatrième chose, il nous aide à prier. C'était dans les versets 22 à 27. C'est un contexte de souffrance. Vous avez entendu ces mots. C'est la souffrance de la création tout entière, depuis que le péché est entré dans le monde. C'est la souffrance causée par l'injustice, par une nature détraquée, par la mort, par la maladie, par le mensonge. C'est la souffrance que connaissent tous les hommes. C'est la souffrance que connaissent les chrétiens, en particulier. Ils sont parfois déçus d'eux-mêmes. Ils subissent parfois l'incompréhension des autres. Ils subissent parfois la persécution et le martyr. Dans un monde qui souffre et qui gémit, dit Paul, nous aussi, nous gémissons. Nous remettons notre souffrance à Dieu. Nous lui demandons de nous l'enlever. Nous prions pour des gens malades. Nous prions pour les chrétiens qui sont en prison en Algérie ou en Corée du Nord. Nous prions pour ceux qui vivent dans la crainte des assassinats à Gaza et à Bagdad. Mais nous ne savons pas toujours comment prier dans la souffrance, devant la souffrance. Quand quelqu'un est gravement malade, est-ce qu'il faut prier pour qu'il soit guéri? Ou pour qu'il garde confiance en Dieu? Ou même pour qu'il puisse partir dans la paix. Nous ne savons pas comment prier. Et parfois, notre souffrance à nous est tellement forte que nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons que soupirer. Et si nous étions moins bien élevés, nous taperions contre les murs. Et c'est là que l'apôtre Paul veut nous encourager. Il nous enseigne que l'Esprit prend nos pensées plus ou moins bien formulées et il les interprète auprès du Père. Il connaît parfaitement le Père, il nous connaît parfaitement, il intercède pour nous. Quand nous n'avons pas les mots, l'Esprit les trouve. Il est le moteur de notre moralité, il nous conduit. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il prie avec nous et pour nous. Et voilà donc ce que l'Esprit a fait, ce qu'il fait actuellement. Il nous reste un mot. Ce que l'Esprit va faire, c'est pas fini. Et là, il faut que nous levions la tête et que nous regardions en avant. L'Esprit nous a donné la vie en Christ. Il nous aide à vivre avec Christ. Et le verset 11 nous dit ce qu'il va faire, quelque chose qui est encore à venir. Si l'Esprit, au verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous attendons, par-delà la mort, la résurrection des corps. Tout ce que le péché a gâché sera restauré. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous serons transformés comme le corps de Jésus a été transformé. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. Il nous ressuscitera et nous transformera aussi. Alléluia. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Avant de tendre des questions, j'aimerais que nous ayons un moment pour que chacun puisse prier Dieu. Peut-être avez-vous entendu ce matin quelque chose qui vous amène à remercier Dieu, ne serait-ce que le verset premier. C'est le moment de dire merci. Peut-être avez-vous compris que vous étiez très loin de ce que Dieu vous demande. Peut-être avez-vous compris que vous étiez loin de ce que Dieu veut vous donner, vous faire vivre. Et ce serait alors le moment de vous ouvrir à Dieu et de prier pour qu'il vienne vers vous. Donc un moment de silence avant les questions.